personnes dans les rues, alors qu'Israël ne nous a pas habitués à ça. Hein. Pour nous, en France, Israël, c'est tout de suite attaché, Israël, Palestine, rien. C'est toujours attaché. Il y a un trait d'union, ou au contraire, un trait de désunion, il y a un mur. Mais on n'arrive pas à penser Israël autrement qu'à travers le conflit palestinien. La société israélienne, on a quelques vagues notions. Et voilà que soudain, au début de l'été, voilà que ces Israéliens bougent, se mobilisent, et ça nous parle beaucoup, parce qu'on regarde ce qui se passe en Espagne, on a été saisi auparavant de ce qui s'est passé en Tunisie, qui nous est proche, de l'Égypte. Il y a un soulèvement comme ça étonnant, de révolte. Tout d'un coup, on assiste à ça. Il y a quand même quelque chose de surprenant, comme toujours, en politique et en histoire. Et ça tombe bien, puisque Gadi Al-Ghazi, qui est devant moi, est prof d'histoire.
Oui, c'est vrai, mais plutôt activiste. C'est pas comme historien, c'est comme activiste, comme quelqu'un qui militant, comme quelqu'un qui veut changer l'histoire, qui ne veut pas rester prisonnier de l'histoire, que je suis ici.
À travers un mouvement qui s'appelle
Hitrabrout, Tarabout, ça veut dire en arabe et en hébreu rassembler les gens, les démunis, les dépossédés, les discriminés dans la société israélienne.
Alors,
c'est notre projet.
Pour comprendre, quand vous dites notre mouvement, quoi, c'est un mouvement politique, associatif, syndical, c'est un parti, c'est quoi?
C'est un mouvement politique de gauche, arabe-juif, qui essayait de rassembler les groupes discriminés et dépossédés dans la société israélienne, parce que nous pensons que pour changer la société israélienne et aussi pour faire notre contribution à un processus de décolonisation en Israël, ça veut dire pour résoudre le conflit israélo-palestinien, on doit travailler avec les gens, on doit travailler sur la production de la souffrance dans la société israélienne.
Alors, qui dit Israël dit sécurité. La question d'Israël, c'est la question de la sécurité. Les Israéliens sont toujours menacés à l'extérieur, menacés, on peut presque dire, de façon fondamentale. Il y a toujours un danger à l'extérieur. Dans la société israélienne, à chaque fois qu'il y a des revendications de nature sociale et ce à quoi on assiste actuellement, à chaque fois, la question sécuritaire a été érigée en nécessité absolue. Et c'est ça qui est remis en cause.
C'est toujours vrai. Et nous appelons ça la politique de la peur. C'est pas seulement un discours sécuritaire, c'est vraiment une façon de l'utiliser, la question de sécurité, pour éviter les vraies questions de la société israélienne. Mais il y a deux choses à dire. Premièrement, les gens ne sont pas si bêtes. Tout le monde en Israël connaît le truc, la ficelle. Deuxièmement, la politique de la peur a ses limites. On ne peut pas toujours parler de la sécurité sans être capable de fournir la sécurité. Et la politique israélienne ne peut pas fournir la sécurité. Elle peut jouer la carte sécurité, mais avec une situation de guerre permanente, le discours sécuritaire tourne contre soi-même. Les gens disent « Ok, sur la sécurité, on ne peut rien faire. » Alors on retourne, on retravaille la question sociale.
Alors, est-ce qu'on peut maintenant reprendre un peu la chronologie de ce mouvement ?
Et on commence avec une sorte de proteste des consommateurs. Parce qu'Israël, qui produit de lait, qui a une agriculture très, très développée, le prix de fromage, le prix des cottages, c'est le fromage le plus identifié avec le menu israélien quotidien, est devenu si haut que les gens... Alors, on utilise l'Internet, on voit bien que ça coûte plus cher en Israël que dans l'Union européenne, où les gens gagnent en Europe du Nord trois fois ou parfois quatre fois plus qu'en Israël. Ça, c'est un commencement.
On l'a appelé la révolte du cottage.
Mais l'autre qui est très important, et c'est ça, je trouve, qu'on devait commencer, c'est Tunisie et Égypte. Parce que pour les gens, c'était évident que beaucoup de gens en Israël disaient comment ça se passe que les gens en Égypte sont capables de résister, de faire quelque chose, et nous, on est incapables de faire quelque chose. Et pendant le février, pour exemple, on pouvait trouver partout sur le Facebook des groupes de jeunes qui ont utilisé le discours de la révolution que personne n'a utilisé en Israël sérieusement depuis toujours, presque. Il s'appelait la jeunesse de la révolution. Il s'appelait les jeunes. Et